Génération engagée, donc elle a été invitée, enfin nous avons été invités, donc elle y est allée pour répondre à un certain nombre de questions qui seraient posées. Donc à ma droite, eh bien, Nathalie Arthaud, qui est donc la représentante de lutte ouvrière nationale et qui, à ce titre, a été notre candidate au présidentiel. Voilà. Et qui, par ailleurs, est enseignante au lycée Le Corbusier sur Aubervilliers. À droite de Nathalie, Danielle Vauzel, qui est militante sur la ville, que un certain nombre d'entre vous connaissent. Et puis moi, je me... Et donc, voilà, moi je me présente, Michel Joannin, je suis retraité, je travaillais chez Alstom Rateau à la Courneuve. Et pendant quand même un certain nombre d'années, j'étais le candidat de lutte ouvrière sur la ville. Voilà. Et bien sûr, je suis très content et de passer le relais et de passer la parole à Nathalie.
Je ne vais pas déroger à la tradition. Alors, travailleuses, travailleurs, camarades et amis, bienvenue ce soir à cette réunion. Donc je vous remercie d'être présent pour faire un petit peu le point sur la situation politique. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que l'élection de Hollande n'a pas soulevé une vague d'enthousiasme. S'il y a eu un soulagement et un contentement, c'est surtout de s'être débarrassé de Nicolas Sarkozy, qui, il est vrai, a été tout de même le président des riches, qui a fait preuve de beaucoup d'arrogance et de beaucoup de mépris vis-à-vis des travailleurs. Donc il y a eu une satisfaction indéniable, je crois, de s'être débarrassé de celui-là. Il n'empêche que beaucoup autour de nous veulent croire au changement, hein, au changement promis par Hollande. Et on peut dire que Hollande en joue. Depuis qu'il est arrivé effectivement au pouvoir, on l'a vu dans les premières semaines, dans les premiers jours, même prendre l'exact contre-pied de Nicolas Sarkozy. On l'a vu baisser son salaire de 30%, celui des ministres. On l'a vu expliquer qu'il voulait être l'inverse d'un président bling-bling, un président modeste, qu'il n'allait pas se déplacer en avion mais en train. On l'a vu faire signer à ses ministres une charte de déontologie, alors que Sarkozy avait essayé de placer, on se souvient de son fils, un poste important. Donc oui, on peut dire que Hollande en joue, il y a un changement de style, il y a évidemment aussi un nouveau gouvernement qui est rajeuni avec des nouvelles têtes, enfin bon, tout ça, ça donne un peu l'image d'un gouvernement tout nouveau, tout beau, voilà. Bon, mais tout ça, c'est quand même des mesures symboliques. Ce sont des mesures symboliques qui ne changent en réalité pas la donne et sûrement pas la vie des travailleurs. À côté de ces mesures symboliques, il y a, il est vrai, un certain nombre d'annonces qui sont faites en direction des plus modestes. Je veux parler là de l'annonce du coup de pouce sur le SMIC, de l'annonce sur le blocage des loyers à la relocation, et puis de l'annonce sur les retraites, ce fameux décret sur les retraites. Alors, bien sûr, ces annonces, de notre point de vue, elles ne sont pas à la hauteur des besoins. Elles ne sont sûrement pas à la hauteur des besoins. D'abord, quand il s'agit d'un coup de pouce au SMIC, on a bien compris que ça n'allait être qu'une toute petite augmentation, que le souci de Hollande, c'était sûrement pas de déstabiliser la santé financière des entreprises, il nous l'a dit. Le ministre de l'économie, Michel Sapin, a bien fait pas de l'économie, il est ministre du travail, il a tenu à dire que ça ne pouvait être de toute façon qu'un tout petit coup de pouce. Or, on sait très bien que 1100 euros aujourd'hui, pour tout salaire, c'est absolument impossible de boucler les fins de mois et de vivre dignement avec cela. Et c'est sûrement pas quelques euros de plus sur cette fiche de paye qui va sortir les travailleurs de la galère quotidienne pour payer toutes les factures. Les loyers, les mutuelles, l'électricité, bon. Alors non, c'est pas un coup de pouce au SMIC qu'il faudrait, ça serait le porter, en fait, à 1700 euros net, au minimum pour tous, parce que c'est comme ça qu'on pourrait effectivement vivre dignement. Il y a eu aussi l'annonce, alors il y a deux jours, de Cécile Duflot, cette annonce du blocage des loyers, mais seulement au moment de la relocation. Alors il ne s'agit pas d'un blocage des loyers dans le sens où il serait interdiction d'augmenter les loyers, non, parce que là, il est toujours autorisé hein, d'augmenter les loyers en fonction de l'inflation, en fonction du marché. Hein, tout ça, c'est laissé, c'est du domaine évidemment du possible. Seuls les abus au moment de la relocation seraient un tant soit peu encadrés. Mais là encore, c'est largement insuffisant quand on sait que les loyers ont augmenté en 10 ans de 50% à Paris, mais y compris dans l'approche banlieue parisienne, et qu'aujourd'hui, quand on veut louer un deux pièces, il faut sortir 600, 700 euros bien souvent, et que c'est effectivement inabordable aujourd'hui pour le salaire d'un travailleur. Donc il faudrait évidemment des mesures beaucoup plus énergiques et de toute façon, ce qu'il faut et ce qui est indispensable, c'est construire massivement des logements sociaux, des logements accessibles au salaire d'un ouvrier aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, mais à l'échelle de tout le pays. En faisant cette campagne, en discutant, on a régulièrement, à quasiment chaque rencontre sur les marchés ou aux bouches de métro, on rencontre des femmes et des hommes qui viennent discuter de leurs problèmes de logement. Alors c'est des logements insalubres, c'est des logements où il y a des rats, où il y a de la peinture au plomb, des logements où il y a de l'humidité, c'est des logements où les enfants sont malades, c'est des logements où il y a deux pièces et une famille doit vivre à 5, à 6, à 7. Donc voilà la vie quotidienne aujourd'hui de beaucoup de familles dans le département. Et pour faire face à cette difficulté-là, de trouver un logement adapté et adapté à tous les niveaux, évidemment qu'il faudrait prendre ce problème à bras-le-corps. Et ça voudrait dire construire des logements sociaux massivement. Et c'est une situation qui est d'autant plus révoltante et inacceptable que ça fait des décennies que ça dure. C'est pas une situation qu'on découvre. Et pendant ces décennies, on ne peut quand même que constater que la droite et la gauche se sont succédées au pouvoir. Et aucun n'a pris les mesures qui s'imposaient hein, pour les construire, ces fameux logements. Et pourtant, tout ça, c'est quand même à notre portée. C'est à notre portée parce qu'il est évident que ce n'est pas les bras qui manquent hein, et que l'État pourrait directement embaucher des maçons, des peintres, des architectes, des électriciens, directement, sans en passer par les marchands de béton, les Bouygues, les Eiffage, mais mettre en place son propre service public de construction de logements sociaux. Et il pourrait préempter des terrains, réquisitionner hein, des terrains et les faire sortir de terre, ces logements hein, dont on manque cruellement depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Alors voilà ce qu'il faudrait réellement. Et de ce point de vue-là, la mesure et l'annonce de Cécile Duflo et du gouvernement de bloquer à la relocation les loyers, là encore, c'est vraiment du domaine de la mesure symbolique en réalité. Et puis je voudrais terminer sur le décret sur les retraites. Ce qu'on constate effectivement, alors c'est tant mieux évidemment pour les 100 000 travailleurs qui vont pouvoir partir à 60 ans. Hein, mais on peut quand même dire qu'ils l'ont bien mérité leur retraite. Hein. Quand on a commencé à travailler à 18 ou à 19 ans et qu'on a cotisé 41 annuités, c'est quand même la moindre des choses, alors c'est tant mieux pour eux. Mais nous, ce que l'on dénonce dans ce décret, c'est que justement, il n'est réservé qu'à une minorité de travailleurs. Et nous pensons qu'il aurait fallu revenir sur cette réforme, cette contre-réforme, ces attaques et ces reculs imposés par Sarkozy hein, pour absolument tout le monde, qu'il n'est absolument pas admissible de considérer que ce qu'on pouvait faire il y a 40 ans, il y a 30 ans, eh bien on n'est plus en mesure aujourd'hui de l'assurer aux travailleurs. Hein, donc pour nous, ça, il aurait fallu évidemment revenir sur tout ça. Alors, ce décret sur les retraites, justement, il montre en réalité qu'il va y avoir une continuité entre la politique de Hollande et la politique de Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement mettre en avant un certain nombre de mesures symboliques, faire un certain nombre d'annonces, mais sur le fond, ils ne vont pas revenir sur les reculs qui ont été imposés par Sarkozy. Et une autre preuve de cette continuité qui va en réalité peser dans les années à venir, c'est cet engagement que Hollande a pris vis-à-vis des banquiers. Cet engagement qu'il paierait hein, toutes les dettes, rubis sur l'ongle, et cet engagement qu'il reviendrait effectivement à 3% de déficit budgétaire. Donc là, on voit que, eh bien, il est prêt à participer à ce racket que les banques opèrent au quotidien. Et ça, évidemment, c'est vraiment la preuve que finalement, ils se rangent du côté de la bourgeoisie et des plus riches. Parce que dire quand même que c'est à toute la population de payer cette dette, c'est vraiment révoltant. Parce que cette dette, elle a effectivement explosé depuis la crise, mais si elle a explosé depuis la crise, c'est pas de notre fait à nous. C'est pas parce que nous, les travailleurs, on a coûté trop cher à l'État. Parce qu'il n'y a pas un euro de cette dette qui est allé à l'éducation, qui est allé aux hôpitaux, qui est allé aux maisons de retraite, qui est allé aux chômeurs. Cette dette supplémentaire, elle a été contractée pour effectivement aller secourir les banquiers, aller sauver les banques, pour subventionner les groupes industriels, pour les exonérer de nouveaux impôts, pour leur faire des cadeaux fiscaux. Et voilà pourquoi cette dette, elle s'est effectivement accrue. Donc nous disons que cette dette, ce n'est pas la dette des travailleurs, ce n'est pas la dette de la population, et qu'il n'y a aucune raison que ce soit à nous de la payer et d'accepter cela. En s'engageant effectivement à honorer cette dette, c'est-à-dire à ce que nous tous, contribuables, on la paye, eh bien c'est une façon, de la part de Hollande, de se ranger effectivement dans le camp de ses plus riches, dans le camp de ses industriels et de ses banquiers. Alors on entend aussi autour de nous beaucoup dire « mais il faut lui laisser du temps, en 3 semaines, en 1 mois, il ne peut pas tout faire, il ne pouvait pas tout faire, Hollande, et donc il faut quand même attendre un petit peu de voir ». Certes, c'est vrai qu'en 3 semaines, on ne peut pas tout faire, c'est vrai, mais par contre, on peut quand même prendre des engagements. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on va faire. On peut dire ce qu'on acceptera. On peut dire ce qu'on n'acceptera pas. On peut dire ce qu'on interdira. Et là, vis-à-vis des travailleurs, Hollande ne fait pas d'engagement. Et en particulier par rapport à ces multiples plans de licenciement et ces menaces qui plane sur de multiples entreprises dans le pays. Vous avez entendu, comme moi, que la CGT avait fait une liste d'entreprises menacées de fermeture. Elle en a répertorié 46, et encore, je pense que la liste n'est pas complète, et que ça recouvrirait dans les 45 000 emplois. Et on connaît tous un certain nombre d'entreprises. Bien sûr, Peugeot Citroën, à Aulnay-sous-Bois, qui emploie quand même 3 500 ouvriers, Et autour de ce site, il y a 10 000 travailleurs en fait qui travaillent quotidiennement. On connaît aussi le cas de la Syrie, enfin du haut fourneau de Florange, d'ArcelorMittal. On connaît le cas de Fralib, Unilever. On connaît le cas de PetroPlus. Mais en fait, à cette liste-là qui était annoncée déjà sous le gouvernement Sarkozy, continue de courir sous la présidence de Hollande, à cette liste-là se sont rajoutées encore des annonces chez Air France, dans toutes les banques, dans l'agroalimentaire, dans la téléphonie, enfin dans toute une série de secteurs. Et que propose donc le gouvernement face à cela? Eh bien, mis à part avoir nommé un ministre du redressement productif, mis à part donc avoir créé un ministère sur mesure pour Arnaud Montebourg, le moins qu'on l'en puisse dire, c'est que le gouvernement ne s'engage à rien. D'ailleurs, Arnaud Montebourg a reçu récemment les travailleurs d'ArcelorMittal, mais il a aussi reçu les travailleurs de Fralib, et à chaque fois, c'était sans s'engager vis-à-vis de ces travailleurs à leur garantir leur emploi, à leur dire, écoutez, vous pouvez être sûr, dans 6 mois, dans 1 an, vous aurez encore votre boulot, vous aurez encore votre salaire qui tombera. Non, ça, cet engagement-là, il ne l'a pas fait. À la place de cela, pour ArcelorMittal, Arnaud Montebourg a prévu de faire une expertise pour étudier la situation du site industriel. Bon, mais y a-t-il besoin de faire une expertise? Franchement, ArcelorMittal, c'est le premier groupe mondial au niveau de l'acier. Ce groupe a réalisé près de 2 milliards de bénéfices l'année dernière. Est-ce qu'il y a besoin de faire une expertise industrielle pour se poser la question de savoir si le haut fourneau est rentable ou pas rentable? Mais nous, ce n'est pas notre problème qu'il soit rentable ou pas rentable. Le problème, c'est de sauver les emplois. Donc, on sait très bien que ArcelorMittal aurait l'argent pour maintenir effectivement ce site en activité, et on devrait tout simplement le forcer, l'obliger, lui imposer de répartir l'activité entre les différents sites qu'il a en Europe, mais de façon à sauvegarder et à sauver l'emploi de chacun. Voilà ce qui serait possible de faire dans ce genre de situation. Et c'est exactement la même chose pour le site de Peugeot-Citroën à Aulnay. C'est exactement la même chose. Si on obligeait le trust Peugeot à maintenir l'emploi sur ce site, est-ce que ça mettrait le trust sur la paille? Non, sûrement pas. Et ça n'écornerait qu'un tout petit peu, et même sans doute pas beaucoup, la fortune de Peugeot, qui chaque année quand même encaisse ses dividendes. Et aux dernières nouvelles, les dividendes qu'ils avaient encaissés au titre de 2011, c'était quand même dans les 280 millions d'euros. Bon, alors voilà pour nous la politique qu'il faudrait mettre en place, oui, interdire les licenciements, geler tous ces licenciements et forcer effectivement ces grands groupes, ces grands capitalistes à prendre une partie de leurs profits pour justement sauvegarder ces sites, pour maintenir les emplois et puis pour continuer évidemment de verser les salaires à tous les travailleurs. Alors tout ça évidemment, ce n'est pas des mesures qu'imagine le gouvernement Hollande. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est organiser des tables rondes, un cycle de négociations, de diligenter des expertises. C'est une façon quand même de lanterner justement les travailleurs. C'est une façon de lanterner les travailleurs et ça, finalement, je crois que s'il y a une différence à attendre entre la politique de Sarkozy et celle de Hollande, ça sera ça. Ça sera que Sarkozy, la droite, assumer sa politique anti-ouvrière de façon tout à fait ouverte, assumer, il l'a justifié. La gauche, avec Hollande, va enrober toute cette politique anti-ouvrière dans des tables rondes, dans des discussions avec les syndicats. Il va essayer effectivement de donner un petit peu du grain à moudre aux syndicats et d'ailleurs de les mêler à tout ça pour faire passer la pilule. Mais le résultat pour les travailleurs sera le même. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, il y a une crise. Il y a une crise, et il faut le dire, oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, il faudra qu'il y en ait qui fassent des sacrifices. Et le problème, c'est de savoir qui. Qui va faire des sacrifices Est-ce qu'on va encore demander aux travailleurs qui, depuis que la crise a éclaté, et qui ont eu, eux, à faire des sacrifices depuis 3 ou 4 ans, est-ce qu'on va encore leur demander des sacrifices? Ou est-ce qu'on va les demander cette fois aux plus riches, à ces groupes industriels et aux banquiers? C'est ça la question. Et faire croire, comme le fait le gouvernement, parler de concertation, faire croire qu'on peut ménager, et les uns et les autres, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, ça c'est pas vrai. Pour sauver les emplois, pour sauver les salaires, eh bien il faut dire qu'il va falloir prendre sur les profits. Si on veut sortir les hôpitaux de cet endettement financier, eh bien il faut arrêter le racket des banquiers. Si on veut donner des moyens à l'école, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, eh bien oui, il va falloir faire payer les plus riches. Et ça, il faut le dire, il faut l'annoncer, et il faut en avoir la volonté. Alors, pour sauvegarder les conditions de vie des classes populaires, eh bien il faudra faire payer les plus riches, et ça veut dire affronter le patronat. Ça veut dire affronter les banquiers, ça veut dire leur interdire un certain nombre de choses, les faire renoncer à tous leurs plans de licenciement et faire reculer l'exploitation. Toute chose que ne veut pas faire Hollande. Hollande ne le fera pas, il n'a pas ce courage-là, et il va laisser libre, il va laisser les mains libres en réalité au patronat. Parce qu'il n'y a que ça qu'il imagine, cette société dirigée justement par ces capitalistes, par ceux qui apportent l'argent. Et bien ces gens-là, il faut le gouvernement, son boulot, c'est de gérer leurs affaires et sûrement pas de les gêner. Donc voilà la politique qui nous attend. C'est en réalité une politique d'austérité. Alors une politique d'austérité qui aujourd'hui est largement masquée par le fait qu'il y a les élections législatives et que le moment est plutôt aux annonces... aux annonces un peu en, en, comment dire, en trompe-l'œil. Mais dans les mois qui viennent, c'est bel et bien ce discours-là qui va nous être tenu. Voilà, alors, il va laisser surtout les mains libres au patronat et la politique hein, de ce grand patronat, on la connaît, il n'y a absolument aucun suspense vis-à-vis de ça, aucun miracle à attendre. Hein, cette politique, c'est celle qui a été menée depuis que la crise a démarré et qui consiste effectivement à aller chercher sur le dos des travailleurs ce que le marché ne peut plus leur donner. Hein, dans une période de croissance, quand les affaires prospèrent, quand ils peuvent espérer effectivement faire plus de profits en vendant plus, bon ben, ils peuvent y compris accorder un certain nombre d'augmentations de salaire. Hein, ils peuvent faire tomber un peu des miettes hein, de leur table, hein, puisque les affaires marchent bien, mais pas dans une période de crise. Dans une période de crise, non, tout ce qu'ils ne peuvent pas gagner hein, en élargissant leur vente, eh ben, ils vont aller le chercher en aggravant l'exploitation, c'est-à-dire en faisant travailler plus ceux qui sont au travail et en licenciant les autres. En licenciant les autres, ça va être l'aggravation effectivement des conditions de travail pour ceux qui ont encore un boulot, ça va être la multiplication des petits boulots, ça va être le fameux modèle qu'on nous montre en exemple, vous savez ce modèle allemand, hein, ce modèle allemand où en fait il y a la multiplication des petits boulots, hein, vous avez vu que, y compris beaucoup de travailleurs pour arriver à joindre les deux bouts doivent cumuler 2-3 boulots, hein, parce que c'est des temps partiels qui sont généralisés, c'est du travail précaire qui est généralisé, et ça on nous le montre comme un exemple, hein, toujours au nom de la compétitivité, hein, mais au nom de la compétitivité, et bien voilà la politique que ça veut dire, la fin effectivement du CDI, la multiplication des boulots partiels et à temps partiel et des boulots précaires. Donc face à cette politique, nous pensons, face à cette politique patronale, nous pensons qu'évidemment il ne faut pas compter sur Hollande pour protéger les travailleurs et que les travailleurs, le monde du travail doit se préparer à se battre par lui-même, hein, doit se préparer à se défendre avec ses propres forces. Donc voilà pourquoi, y compris dans cette élection législative, mais comme dans l'élection présidentielle, nous défendons, nous, un programme de lutte. Un programme de lutte. Parce que nous disons que le sort des travailleurs ne dépend pas, en fait, hein, de ce qui va se passer dans les couloirs du Palais Bourbon, hein, de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Le sort des travailleurs ne dépend pas de ces discussions-là entre les députés et de ces guéguerres hein, qu'on va avoir, ça c'est sûr, à l'Assemblée nationale. Non, le sort des travailleurs dépend en réalité de ce qui se décide dans les conseils d'administration des entreprises, dans le conseil d'administration des banques et des groupes industriels. Le sort des travailleurs ne va pas dépendre en réalité des urnes, mais il va dépendre donc du rapport de force que les travailleurs vont être capables effectivement d'imposer vis-à-vis du patronat. Donc voilà pourquoi nous parlons bel et bien d'un programme de lutte et pas d'un programme électoral. Alors dans ce programme de lutte, vous le savez sans doute, pour nous la priorité évidemment, c'est de mettre un garrot hein, sur cette hémorragie que constituent ces plans de licenciement hein, et de suppression d'emplois. Il faut interdire ces licenciements. Et quand je parle de licenciement, je parle aussi de renvoyer les intérimaires, de renvoyer les CDD, hein, parce que bien sûr, ce n'est pas considéré comme des licenciements, mais ça en est quand même bel et bien. Hein, le résultat, il est le même pour l'intérimaire. Donc pour nous, c'est interdire les licenciements et qu'on répartisse le travail et l'activité qu'il y a à faire entre tous, bien sûr, sans diminution de salaire, en assurant à tous un salaire complet et à la hauteur de, au minimum, de 1 700 euros. Et puis, tout le monde le sait, le voit, le subit. Il manque du monde dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il manque du monde dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, il manque du monde dans les transports en commun, j'en oublie, eh bien on pourrait chacun faire la liste hein, de ce qu'il y a besoin d'embaucher pour que ça fonctionne normalement, eh bien nous disons qu'il faut créer ces emplois, il faut créer ces emplois. Et il faut aussi avoir une politique de grands travaux pour mettre fin à ce fléau du chômage. Hein, c'est un fléau pour tous les quartiers populaires, pour toutes les villes populaires ce chômage, et c'est un fléau qui pèse sur tout le monde, sur absolument tout le monde. Parce que bien sûr, c'est d'abord celui qui est au chômage et qui ne peut pas vivre et qui est plongé dans la misère. Mais le chômage, il pèse aussi sur ceux qui travaillent. Hein, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça. C'est en utilisant ce chantage du chômage qu'on nous fait accepter des reculs dans les conditions de travail, qu'on nous fait accepter des horaires délirants, qu'on nous fait accepter un surcroît de travail. Donc en réalité, c'est un fléau pour absolument tout le monde. Et c'est ce chômage aussi, d'ailleurs, qui fait des ravages dans les quartiers populaires et qui développe toute cette incivilité dont on subit les conséquences aussi. Le chacun pour soi, l'individualisme qui se développe, c'est aussi le résultat de ce chômage et de cette misère qui monte. Alors pour nous, oui, créer des emplois, c'est absolument indispensable. Et ça passe aussi par une politique de grands travaux. Et on n'a pas besoin d'inventer des choses. On sait très bien les besoins qu'il y a. Et ces besoins, ils sont justement au niveau du logement. Oui, il faudrait construire des centaines de milliers de logements dans l'urgence. Voilà comment les profits et l'argent qui existent dans la société pourraient être utiles à toute la population. Aujourd'hui, ce qui est complètement fou et révoltant, c'est que ces profits, ils servent à des caprices de riches. Acheter des yachts qui sont plus grands qu'un terrain de foot, sur lesquels ils embarquent des sous-marins, des caprices de riches, oui. Ou alors, pire encore, ils sont aspirés dans la spéculation, dans la finance. Finalement, ils nuisent à toute l'économie et nous emmènent dans le mur. Alors nous disons que ces profits et cet argent, eh bien, ils seraient mille fois mieux utilisés justement à des embauches et au versement des salaires. Voilà, nous disons que le droit à un emploi, finalement, dans cette société d'exploitation, c'est le seul véritable droit auquel les exploités, ils ont accès. Eh bien, il va falloir se battre, se battre bec et ongles pour défendre ce droit, justement. Les salaires, le SMIC, mais il faut augmenter tous les salaires et surtout faire que les salaires, mais comme les pensions de retraite, et à ça je tiens aussi à ajouter d'ailleurs les allocations avec lesquelles on doit vivre pour boucler tout ça, les allocations logement, familiales, mais aussi l'allocation adulte handicapé. On sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent avec cette allocation-là. Et bien évidemment, il faudrait les augmenter et faire en sorte qu'ils augmentent au même rythme. Au même rythme que les hausses de prix, au même rythme que l'inflation. Pas accepter d'avoir toujours à courir après les prix, se rendre compte au bout de 6 mois que tout a augmenté et que nous, notre fiche de paye, elle est restée bloquée. Donc imposer qu'il y ait une augmentation générale, effectivement, des salaires, des pensions de retraite, de ces allocations, et imposer qu'il y ait une indexation automatique sur les hausses de prix. C'est une revendication qui est d'autant plus importante que quand on les écoute bien, ils sont tous en train de nous expliquer qu'il y aura forcément des augmentations de prix dans les mois et dans les années à venir. Ils sont tous en train de nous expliquer que c'est incontournable, c'est une fatalité, que tout va augmenter, les matières premières, l'électricité, le pétrole. Donc ils sont en train de nous expliquer ça. Eh bien nous disons, bon, ok, si on ne peut rien faire sur les prix, en tout cas nous, il faut que nos salaires, ils augmentent absolument au même rythme et de façon automatique. Et puis, évidemment, pour se protéger aussi, je tiens à dire quand même que pendant toute cette campagne présidentielle et puis pendant cette législative, on nous a dit, mais quand même, 1700 euros. Vous croyez que c'est réaliste? Ben moi, quand même, je me dis qu'au 21e siècle, dans une société capitaliste riche comme la nôtre, où on voit quand même des milliards s'accumuler à un pôle de la société, qu'on nous fasse la leçon en nous expliquant que 1700 euros, c'est inatteignable, que c'est irréaliste, eh bien moi je pense que ça montre vraiment, vraiment qu'on est dans une société qui est au bout du rouleau et une économie qui est absolument, qui n'est pas viable. Parce qu'une économie qui ne permet pas à ses travailleurs de vivre dignement, ben forcément c'est une économie qui est condamnée. Pour nous, c'est la politique pour les travailleurs à défendre. Elle passe évidemment, c'est des mesures qu'il faudra imposée par un rapport de force et par des luttes puissantes. Ça, on ne le cache pas. Mais nous disons que les travailleurs qui sont d'accord avec ces objectifs, qui considèrent que ce sont des mesures qui sont vitales, qui sont urgentes à imposer, eh bien, il faut qu'ils le disent en votant pour moi dans la circonscription, mais en votant pour tous les autres candidats de lutte ouvrière à l'échelle du pays, parce que nous présentons des candidats dans toutes les circonscriptions. Voilà, il faut qu'ils disent qu'ils approuvent ces mesures-là. Nous pensons que cette élection législative, c'est l'occasion, justement, que les travailleurs disent leurs exigences, qu'ils les mettent sur la table. Et ça sera important. Ça sera important parce que ça sera une façon aussi, si nous arrivons à faire un score un peu plus important qui se voit, eh bien ça donnera de la force, ça donnera du crédit, ça nous aidera effectivement à défendre cette politique, à la mettre en avant. Donc voilà ce que l'on peut faire, ce qui sera important de faire au premier tour, hein, de voter effectivement pour nos revendications. Et bien sûr, le Parti Socialiste va expliquer qu'il lui faut une majorité pour gouverner. Hein, il va expliquer que voilà, maintenant que Hollande est élu, eh bien, il faut lui donner les moyens en envoyant des députés de gauche à l'Assemblée. Sauf que nous disons, ben voilà, il y a deux tours à cette élection et il faut profiter du premier tour justement pour dire à Hollande qu'il y a des travailleurs qui sont méfiants, des travailleurs qui n'y font pas confiance, des travailleurs qui ne sont pas dupes, qu'au-delà du pouvoir politique, eh bien, il y en a qui tirent les ficelles, les banquiers, les industriels, le patronat, et que ceux-là, eh bien, ils vont continuer de se battre, ils vont continuer de nous infliger des reculs. Donc des travailleurs qui ne sont pas dupes et qui sont conscients qu'ils ont à se battre, à se préparer et à défendre leurs revendications. Voilà, des travailleurs qui tiennent à dire, dans ce premier tour, qu'ils ne se laisseront pas faire. Voilà, il faut absolument aussi montrer à Hollande que justement, on ne lui fait pas un chèque en blanc et qu'on n'est pas prêt à avaler les couleuvres, hein, même si ce sont des couleuvres socialistes. Hein, que finalement, il faut montrer à Hollande qu'il y a un courant parmi les travailleurs qui s'opposera à cette austérité de gauche, qui s'opposera à sa politique. Il faut montrer voilà, qu'il y aura une opposition à gauche, une opposition à gauche. Il ne faut absolument pas laisser le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite. Hein. Il faut au contraire montrer aux travailleurs qui vont être confrontés à ces licenciements, aux problèmes de fin de mois, au recul général de la société, parce que le chômage il va continuer. Eh bien, il faut montrer aux travailleurs qu'il y a une autre politique que celle menée au gouvernement. Une politique effectivement sur le terrain des intérêts des travailleurs, et donc ça veut dire effectivement organiser une opposition au gouvernement de gauche. Il faut affirmer cette opposition au gouvernement, mais il faut aussi affirmer qu'il y a une opposition plus large, une opposition contre l'ensemble de ce système capitaliste. Une opposition à cette société qui est basée sur la loi du profit, sur la rentabilité, sur le marché et sur la concurrence. Voilà. Quand même, cette crise, elle est la faillite du système capitaliste. Elle est la faillite du système capitaliste, elle est la faillite de la rapacité de grands groupes qui n'en ont jamais assez hein, et qui sont prêts, y compris pour faire plus d'argent le plus vite possible, à jouer l'économie à la roulette russe. Donc cette économie-là, eh bien, il faut aussi dire hein, que nous, on la remet en cause, que nous, on ne l'accepte pas telle qu'elle et qu'on ne se résigne pas à une économie et à une société aussi injuste que stupide. Hein, où, finalement, c'est une aberration. Plus la société est capable de fabriquer des richesses et productives, plus la société est efficace et fait des progrès et fait des profits, et plus, finalement, on vit mal quand on est un travailleur. Hein, c'est une société, finalement, capitaliste où c'est le gâchis. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de moyens pour les construire, ces logements. Et pour les construire vite, il suffit de regarder n'importe quel chantier, de voir à quelle vitesse ça pousse, pour voir que tout ça, c'est accessible hein, pour nous très facilement. Et bien, n'empêche qu'il n'y a jamais eu autant de familles sans logement ou alors mal logées. Mais c'est pareil pour les soins. Quand on voit les prouesses médicales, quand on voit les avancées hein, sur le terrain de la médecine, on se dit bah, « c'est fantastique tout ça, oui !» Bien sûr, c'est fantastique, tous ces moyens qu'on a. Et en même temps, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas l'argent pour se soigner, plus l'argent pour soigner. C'est pareil pour l'éducation. avec les moyens, effectivement, de communication, d'Internet, on sait très bien que le savoir, on pourrait le généraliser à l'échelle de tout le pays, du monde entier. Ben, n'empêche qu'il n'y a jamais eu aussi peu de savoir. Donc, voilà pourquoi nous tenons effectivement à dénoncer cette économie capitaliste et à dire que nous, on pense que la société, elle peut être réorganisée, justement, sur de toutes autres bases. Et elle peut être réorganisée de façon à faire profiter à l'ensemble de la population et des travailleurs, et bien tous les progrès de la société, tout ce qu'on est capable justement de produire. Nous, on tient à réaffirmer dans cette période de crise du capitalisme, et bien nos convictions communistes révolutionnaires. On le fait y compris dans le cadre de cette élection, parce que même si nous pensons que c'est pas en votant évidemment qu'on va changer notre sort, n'empêche qu'en votant on peut quand même affirmer justement un courant, des idées, on peut lever un drapeau, et on peut lever ce drapeau de la révolution sociale, on peut dire bah oui, il y en a dans cette société, il y a des femmes et des hommes qui se résignent pas à ce qui se passe et qui ont cet idéal de transformer cette société de fond en comble. Alors, ça, on peut le faire dans ces élections, et bien sûr, on le fera au-delà des élections. Bien sûr, au-delà des élections, nous pensons qu'il faut que renaisse dans ce pays un véritable parti communiste révolutionnaire. Il faut qu'il y ait des militants partout dans le pays, dans toutes les entreprises, dans tous les quartiers populaires, des militants qui défendent cette perspective-là de changer la société, mais aussi qui combattent au jour le jour, sur absolument toutes les questions, qui combattent tous les reculs que le patronat veut nous infliger, les reculs sur les services publics. Donc tout ça, c'est à reconstruire, et c'est bien dans cette perspective-là que nous nous situons, et voter pour les candidats à lutte ouvrière, ça aura aussi cette signification. Alors, lutte ouvrière n'aura pas de députés, à l'issue du deuxième tour. Mais je le redis, il est important que notre courant se fasse entendre, et dans toutes les élections. Parce que dans ces élections, ben justement, on se montre, on s'affiche, on s'affirme, on sème des idées, et on fait quand même avancer les consciences. Alors, et puis nous continuerons. Bien sûr, nous continuerons à dire la vérité aux travailleurs, même si cette vérité n'est pas agréable à entendre. Parce qu'on sait très bien qu'il est plus facile de faire miroiter de faux espoirs, de faire croire qu'il suffira de bien voter, d'élire la bonne personne à la bonne place et que tout ira mieux pour nous. Ça, c'est plus facile de faire croire à ça, en un sauveur suprême. C'est plus facile. Eh bien, nous ne voulons pas dire cela parce que ça, c'est mentir. La vérité, c'est que les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes, que sur leur propre lutte pour se défendre. Et je peux vous garantir, au-delà des élections, eh bien, la lutte ouvrière sera bien sûr toujours du côté des exploités. Notre raison d'être, c'est justement d'œuvrer dans les entreprises, dans les quartiers populaires, dans les écoles, pour que les exploités se donnent un parti à eux, et un parti qui représente, en toutes circonstances, leurs intérêts matériels et leurs intérêts politiques. Voilà, alors nous continuerons à dire tout haut que les travailleurs ont la force de se défendre contre l'exploitation patronale, parce que c'est eux qui font tout tourner dans cette société, que les travailleurs, s'ils sont organisés et s'ils sont conscients, eh bien, ils ont aussi la capacité de faire bien plus. Ils ont la capacité, en réalité, de prendre la direction de la production et de prendre la direction de la société. Voilà, et nous sommes convaincus qu'ils le feraient infiniment mieux que ne le font aujourd'hui ces riches parasites, qui sont préoccupés de leur seul profit et qui mènent la société au désastre.